Vous êtes au point 1 de votre plan, devant la mairie de Rozan. Étymologiquement, le nom de Rozan comporte la racine rose, désignant en celte le point le plus élevé. Bien que nous soyons tout modestement à 708 mètres d'altitude, le village de Rozan domine sur un contrefort, le Serre du Suqué, le bassin du Rozani. La tradition orale voit en la désignation de Rozan la référence aux roses trémières qu'un chef sarrasin aurait cultivées en ces lieux et qui poussent encore nombreuses dans les ruelles. L'ancien village de Rozan que nous allons visiter est un bourg fortifié qui s'est développé en toile d'araignée autour d'un donjon. Voici d'abord la mairie. Admirez le cadran solaire qui a été offert au village en 1988 par une association d'artistes, le Club de l'Authentique. Le modèle en a été choisi par l'actrice Charlotte de Turckheim, qui est venue l'inaugurer. Il porte la devise de sa famille. Profitez-en pour régler votre montre en utilisant le barème fixé sur le tableau d'affichage. On trouve plus de 25 cadrans solaires, signe de l'omniprésence du soleil dans l'ensemble des pays du Buech. Le bâtiment de la mairie, construit vers 1847, a servi de temple pour les protestants de Rozan jusqu'en 1940 environ. Financé par Louis-Philippe, c'est une construction assez exceptionnelle. Des temples de cette importance sont très rares en France. Mais Rozan comptait de nombreux protestants, la moitié de sa population à cette époque. Réhabilité en 1985, on y trouve les bureaux de la mairie au premier niveau, deux grandes salles au deuxième et troisième niveau. Vous remarquerez que le temple était construit à l'extérieur du bourg, car le village fortifié offrait peu de place, et de plus, il s'agissait d'une religion quelque peu en marge, au départ du moins. Il est de plan octogonal et est pourvu d'un lanternon en bois au sommet. Démoli en 1685 par arrêt du roi, lors de la révocation de l'édit de Nantes, il fut reconstruit en 1847 et restauré il y a quelques dizaines d'années. Il possède en son sommet une superbe charpente. Si la mairie est ouverte, vous pouvez demander à la secrétaire les clés pour visiter ces deux grandes salles. Arrêtez alors la cassette le temps de la visite de ces salles. Montez maintenant par la rue perpendiculaire à la mairie. Levez les yeux, vous voyez en face un mur, pas très haut, construit en très grosse pierre. C'était la deuxième tour du village. La première va vous apparaître bientôt sur la droite de celle-ci. Vous arrivez à une petite place triangulaire qui servait autrefois à fouler le blé avec des bœufs ou des chevaux qui tournaient en rond sur les gerbes. Nous sommes maintenant à l'intérieur des remparts. Le baril. Continuez sous la maison à gauche. Sur la petite place où vous arrivez, il y a, dessiné et prochainement restauré, un cadran solaire peint, avec une citation de Giono. La vie, une danse, un pied devant l'autre, tant que va la musique. Le temps règle l'orchestre assis sur le sablier. Reprenez à droite la rue du Four. Vous pouvez observer en passant le bâtiment à votre droite en grosse pierre appareillée. C'était une ancienne tour démolie vers 1600 environ et qui abrite toujours le four du Seigneur, le four banal, où les rosaniers étaient obligés, contre redevance, de faire cuire leur pain. Vous tournez à droite, impasse du recoin. Vous voyez un escalier. Vous êtes maintenant au pied du donjon, au point 2 de votre plan. Les murs de cette tour sont construits à l'aide d'énormes pierres de taille en grès alien, matériau local avec le calcaire. C'est la tour carrée. Elle est dite sarrasine, car la technique des tours carrées en pierre a été amenée par les Sarrasins. Ce n'est qu'au siècle suivant que des Savoyards amenèrent d'Angleterre la technique des tours rondes. Elle date de la fin des années 1100. Amputée de quelques mètres par un seigneur, il construisit un pigeonnier. Les faces de ces pierres sont bombées. Si les donjons de type quadrangulaire sont courants dans la région, celui de Rosan fait figure d'exception, tant par ses dimensions que par son type de parement composé de moellons de grande taille. Montez maintenant l'escalier et entrez par la seule porte restante avec les clés qui vous ont été remises. Attention, la clé du verrou supérieur ouvre à l'envers. C'est donc un bâtiment d'exception, tant par ses dimensions, 11,05 m par 12,05 m, 3,50 m d'épaisseur à la base, 2 m aux étages, que par son type de parement, fait d'énormes pierres de taille en grès. Les faces des pierres présentent un grossier bossage en relief qui accentue le caractère grandiose de l'édifice. Elles n'avaient que très peu d'ouverture au départ. Les fenêtres et la porte de la face sud ont été percées beaucoup plus tardivement. La pièce au niveau du sol, que nous pouvons voir d'ici, était un cellier, servait parfois de cachot. Elle n'avait pas d'accès extérieur. On y descendait par une trappe récemment bouchée. Un pilier central qui était plus épais à la base supportait la voûte de cette salle, puis les planchers des étages supérieurs. La pièce du premier étage à laquelle vous accédez en descendant quelques marches correspondait à une salle d'armes. Observez encore le pilier central qui sert à faire reposer les poutres. En effet, les arbres par ici étant chétifs, les poutres que l'on peut tailler dedans sont courtes, d'où le besoin d'un pilier central pour faire reposer deux poutres de part et d'autre afin d'avoir la longueur voulue. Remontez à l'ouverture de la porte. D'ouverture de la porte, en montant 6 marches, vous accédez au 2e étage de la tour. C'était une pièce résidentielle avec encore 2 importantes meurtrières percées dans le mur sud. Une fenêtre rectangulaire sur le mur est lui donne un certain confort. L'escalier de bois, l'ouverture de porte et l'escalier de pierre, nous atteignons le 3e étage, terrasse sommitale, reconstituée récemment. Relativement fidèle, le béton armé mis à part a son allure d'origine. Supposez que vous êtes le castlan, c'est-à-dire le guetteur. Vous ne serez pas payé en nature comme un certain logier qui avait reçu 9 vignes, des terres, la moitié d'un moulin, des poules, des pins et des langues de bœuf. Qu'entendez-vous du paysage? La vue du sommet est magnifique. Imaginez, il y a 225 millions d'années, un paysage totalement différent. Une mer chaude, peu profonde, appelée par les géologues fosse vaucontienne, qui explique tous les dépôts, tous les fossiles que l'on peut trouver en parcourant la région. Cette mer a subsisté pendant des millions d'années. Puis, il y a un peu plus de 100 millions d'années, les Alpes ont commencé à se soulever pour bouleverser, très lentement d'ailleurs, tout le paysage. Les deux lignes de sommet que vous voyez au nord et au sud de la cuvette, la Clue de Rosan, sont issues des mêmes couches géologiques formées il y a 150 millions d'années. Ces couches sont relativement continues. On pourrait les trouver 600 mètres en dessous du village. Mais à Vaniges, où elles apparaissent très peu et seulement au sommet, on rencontre un déversement exceptionnel qui a amené certaines couches à 750 mètres au-dessus de leur place normale. C'est sur la montagne de Rizou, située à l'est du village, qu'on trouve les couches les plus récentes, 65 millions d'années seulement. L'occupation humaine du bassin du Rosanais remonte à la préhistoire. Un certain nombre de haches en pierre polie y ont été retrouvées, des objets également. Couteau à tête de bélier, lampe à huile, statuette de Mercure en bronze, vases en bronze remplis de pièces d'or romaines ont été retrouvés près de ces remparts et attestent une occupation gallo-romaine. 1er siècle avant Jésus-Christ au 4e siècle après Jésus-Christ. Nombre de ces objets se trouvent dans les collections du musée dauphinois. Quelques-uns au musée de Gap. Nous sommes dans une partie des Préalpes du Sud correspondant à une zone transitoire entre les hauts plis montagneux et le plateau d'Albion. Cette région est caractérisée par un relief beaucoup moins élevé que dans le reste du département, mais il s'agit d'un relief au dessin très tourmenté. De la vallée de l'Oule au Ventoux, la région est enchâssée entre les plissements alpins au pli nord-sud et les plissements pyrénéens au pli est-ouest, ce qui lui donne un relief très enchevêtré, aéré en de très rares points par des bassins. Le bassin du Rosanais est le plus grand de cette région. Cette ample dépression a des dimensions de 25 km d'est en ouest, de Pelonne au rebord oriental et de 12 km du nord au sud, par l'Épine et Villebois. Ce bassin est délimité par de hautes chaînes de montagnes. Au nord-ouest, la montagne de Raton, 1473 mètres. Au nord-est, celle de l'Archier, dont le point culminant est le Fourchat, 1571 mètres. Cette montagne est elle-même prolongée à l'est par celle de Marais. Ces montagnes séparent le bassin de Rosan de la vallée de l'Oule à laquelle on accède par le col de la Fromagère. Au sud, la chaîne de la Clavelière, 1352 mètres, sépare ce bassin de la haute vallée de Louvèze, Montauban. Le climat du bassin de Rosan est celui d'une zone de transition. Tendance méditerranéenne et tendance alpine. La chaleur et la fraîcheur s'y mélangent. Ces ressources agricoles sont celles d'une terre peu riche. Arbres fruitiers tardifs, mais très goûteux. Lavande, tilleul. La population de Rosan est actuellement de 500 habitants. Vous pouvez situer visuellement les lieux cités en vous reportant aux photos présentées aux quatre points cardinaux. Arrêtez la cassette si vous voulez admirer plus longuement le paysage. Redescendons sur la place de la tour. Après la porte d'entrée, que vous refermerez à clé, s'il vous plaît, descendez l'escalier et tournez à gauche. Vous êtes au point 3 du plan. Avancez sur la droite de la place. Cette place a été réalisée dans les années 1920, après l'effondrement d'un pâté de maisons qui occupait le centre actuel de la place. Il y avait une rue centrale face aux escaliers. Les murs montrent les limites de ces bâtiments. En face de la tour, une plaque signale la maison natale d'un berger, qui fut un poète reconnu, est relativement célèbre dans la région. Ses œuvres ont été éditées il y a quelques années. Quittez la place sur la droite. Continuez tout droit et tournez une deuxième fois à gauche. Vous apercevrez sur la gauche une maison dont un des murs est une tour demi-ronde. Celle qui abritait la cloche de l'église avant la construction de l'église Saint-Arré actuelle que nous verrons plus tard. Revenez sur vos pas et descendez tout de suite à droite. Vous avancez dans le chemin de ronde, première ceinture de la ville. Vous êtes alors au point 4 du plan. Avancez dans le chemin de ronde qui constitue une galerie en dessous des maisons. Les portes qui s'ouvrent à gauche sont celles des caves. Sur la droite, regardez deux meurtrières. La première a été élargie pour donner accès à un jardin. La seconde est intacte. Elle permettait aux défenseurs de tirer avec une certaine sécurité sur leurs assaillants. Remarquez l'épaisseur des murs. Et au bout du chemin de ronde, tournez à droite en passant devant la fontaine. Vous êtes au point 5. La maison en face de la fontaine est une ancienne tour carrée qui constituait la porte occidentale du bourg. Descendez quelques mètres sur la rue principale. La maison sur la gauche offre un grand arc plein cintre, bouché de cette porte. Au-dessus, on voit une fenêtre étroite et rectangulaire. C'était la meurtrière qui défendait l'entrée. Remontez la rue, passez à nouveau devant la fontaine, puis tournez à droite en passant sous un porche, la rue du Tricot. C'est la plus belle rue de Rosan, étroite, aux pierres magnifiques. L'extrémité de cette belle rue du Tricot, tournez à gauche en montant. Traversez la rue. Montez vers le nord. Franchissez un passé très caractéristique. Vous arrivez à nouveau sur la place de la tour. Vous pouvez prendre une photo. C'est le meilleur angle. Vous êtes au point 6 de votre plan. Entre deux maisons, vous apercevez un escalier de pierre. Descendez et vous prendrez la ruelle étroite entre deux pâtés de maisons. Au bout de cette ruelle, tournez à gauche et redescendez la rue. Arrivé au carrefour, prenez la rue qui descend à droite à angle aigu. Cette rue se termine par des escaliers sur la grande rue que nous allons remonter à environ la gauche. Un 7 du plan. Remarquez sur la droite en remontant les deux rangées de jardins qui sont parallèles à la rue. Chaque maison du village avait un jardin de 100 à 250 mètres carrés, d'un côté ou de l'autre, à l'extérieur des remparts. Aller au jardin facilitait les contacts entre les villageois qui avaient ainsi beaucoup plus qu'aujourd'hui des occasions de se rencontrer et d'échanger des idées. 100 mètres plus haut, prendre à gauche la poterne qui entre dans les remparts. Vous êtes au point 8 du plan. Puis, par la droite, remontez vers la place. C'est la rue appelée par dérision rue des Puces. C'était la rue des boutiques. On voit à côté de certaines portes une large fenêtre qui servait à présenter et à servir les marchandises à vendre. Rue des Puces renferme les plus vieilles maisons du village. Certaines ont 3 étages de cave, soit 5 niveaux en tout. Avant de pénétrer sur la place, tournez à droite. Vous êtes au point 9 du plan. Redescendez par le passé du lavoir vers la grande rue. Le lavoir a été construit sous la place à la fin du siècle dernier. Il y avait 3 lavoirs à Rosan, dont 2 existent toujours. C'était avant l'eau sur l'évier et le règne de la machine à laver, un endroit très convivial où les femmes pouvaient échanger des idées, des recettes, recevoir des consolations. Remontez sur la place au point 10. La grande place a été réalisée par les Rosanais entre 1800 et 1850 par le biais des prestations appelées aussi la cordée. En effet, les habitants des villages devaient chaque année consacrer plusieurs journées de travail à l'entretien des chemins ou à tout autre travaux décidés par les autorités municipales. C'est ce que l'on appelait les prestations en nature. La fontaine, où tous les habitants du village venaient chercher leur eau, même après l'installation de l'eau courante dans les maisons, fut inaugurée en 1806. Elle se trouve au point de rencontre de tous les chemins qui arrivaient à cet endroit. À cette époque, cette place était très limitée. L'église, qui a été terminée en 1852, n'existait pas. Le fond de la place était encore en jardin. Le château, qui occupe tout un côté de la place, a plus une allure de maison que de forteresse. Il a été construit en plusieurs étapes. Une première partie date du XVe siècle. Les Didières, puis les Guises, ont complété la construction. On voit bien son manque d'unité. Il n'a pas une grande valeur architecturale. Seule sa toiture de style bourguignon en tuiles vernissées est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Sa cour pavée, la porte d'entrée qui porte la devise des Guises et l'escalier intérieur sont cependant assez remarquables. On ne peut hélas les visiter car ils sont privés. De cette place, vous voyez l'église Saint-Jacques le Majeur édifiée vers 1850 dans un style néo-romain. La fontaine devant laquelle nous nous trouvons n'a rien de remarquable, si ce n'est qu'elle commémore en français et en latin le souvenir d'un personnage important pour le département des Hautes-Alpes, tant sur le plan économique qu'historique. En effet, il s'agit de M. Ladoucette, préfet des Hautes-Alpes au début du XIXe siècle. Il a été à l'origine d'une partie des routes pénétrant ce pays, particulièrement la route des Gorges de l'Aigle allant sur Nyons. Avant le milieu du XIXe siècle, il fallait passer le col de Soubéran, traverser le bassin de Sainte-Chale, d'est en ouest, afin de retrouver la route menant à Nyons au niveau de Saune. C'était la place par le portail, c'est-à-dire l'ancienne porte qui fermait les remparts. Cette porte septentrionale du village, percée dans le rempart, comporte un profil à arc brisé. Nous nous rendons par cette porte à l'intérieur du bourg fortifié. Le corbeau situé au-dessus de la porte appartenait à un dispositif de défense appelé mâchicoulis, trou entre deux superstructures par lequel on jetait de l'huile bouillante et des pierres sur les assaillants. Remarquez également la rainure de la herse. Avancez, vous êtes au point 11 de votre plan. Admirez le magnifique portail dont les jambages sont composés de pierres de taille à bossage vermiculé, le tout surmonté d'un fronton rectangulaire chapeautant une corniche. Les résidents de ce château furent les membres de la famille Guise au XVIe et XVIIe siècle. Prenez la rue de droite qui longe la cour du château pour arriver à ce qui fut l'église Saint-Arrée, l'ancienne église de Rosan, transformée en mairie au XIXe siècle. La mention la plus ancienne d'une église à Rosan remonte à 988, date à laquelle le père Richaud donnait terres et églises à l'abbaye de Cluny. Ces églises étaient Saint-Arrée et Saint-André de Rosan, 6 à 5 km. Monument historique que vous pouvez aller visiter, ainsi que son vieux village. On dit que l'église Saint-Arrée était dans les années 1600 dans un état lamentable et que son clocher, bâti en 1714, abritait deux cloches. En face, vous pourrez voir une très vieille porte et quelques mètres plus loin, un encadrement de porte sculpté dans un style Renaissance, très abîmé, car faite avec la pierre tendre de Saint-André de Rosan. Elle représente des oliviers, sorte d'enseigne pour un marchand d'huile. Continuez en bifurquant sur la droite et sortez des remparts par une porte qui a dû être rénovée en 1737. La maison blanche qui se trouve à droite en sortant abritait l'hôpital. Il fonctionnait encore en 1789. Vous apercevez la mairie sur la gauche à 100 mètres. Le tour du village est terminé. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre patrimoine. Cette cassette a été réalisée par l'Office du tourisme avec les idées et la participation des bénévoles du village, que nous ne remercierons jamais assez. Nous sommes conscients de la richesse des ruines et de l'environnement qui est entre nos mains, mais cet héritage est lourd à porter. Notre objectif, ainsi que celui de la municipalité, et de conserver et d'embellir ce patrimoine pour conserver notre passé et la poésie de ces vieilles pierres. Mais nos moyens sont humbles et il nous faudra du temps et des aides pour accomplir ce que nous envisageons. Nous sommes également très intéressés par votre avis sur cette cassette et nous vous serions reconnaissants de bien vouloir le communiquer à l'Office du tourisme. Si vous voulez bien maintenant retourner à l'endroit où l'on vous a remis la cassette, les clés et le plan, puis rendre ces objets afin qu'un autre visiteur, curieux comme vous de notre village, en profite également. Merci encore de votre attention et au revoir, à bientôt.